Donc le pouvoir en France fait semblant de s'occuper de l'école, le leader Maximo s'est allé rendre visite à une école le jour de la rentrée des classes et a prononcé un beau discours qui s'inspirait d'une lettre de 32 pages envoyée à 850 000 enseignants. Comme tout document de ce genre, cette lettre se balançait entre une idée et une autre. Par exemple, jadis, on valorisait trop la transmission du savoir et des valeurs. Désormais, on ne la valorise pas assez. Il y avait de bonnes intentions, comme l'idée de l'autonomie dans les universités. Au sujet du collège unique, qui est l'une des sources de la catastrophe, les contradictions ne manquent pas. Parallèlement aux critiques, et même à l'annonce de sa quasi-prochaine suppression, le ministre Xavier Darcos a rassuré les syndicats. Simultanément, le même ministre a bien précisé que les termes d'examen de passage et de sélection n'avaient pas été évoqués par le président. Lors de son discours, le président lui-même n'avait-il pas, dans un texte du 5 juillet, indiqué que le collège unique était un noble objectif? Le pouvoir, cependant, ne manque pas d'informations sur la catastrophe et ses causes. Un rapport vient d'être remis par le Haut Conseil de l'Éducation. Les 9 experts décrivent le désastre en indiquant que 40% des enfants sortent de l'école sans avoir le niveau scolaire requis. L'opposition des syndicats au collège unique, qui explique largement les allers-retours précédemment signalés, vient de ce que pour l'idéologie dominante, il symbolise l'égalité des chances. Or, l'égalité des chances est une chimère parmi beaucoup d'autres. La poursuivre à grand renfort de dépenses et de réglementations a pour premier effet de ruiner la population et surtout les plus pauvres. L'objet même de la chimère a pour effet d'écraser tous les niveaux sans faire progresser les niveaux des plus faibles. La chimère se retourne contre elle-même, comme toutes les chimères publiques, et seuls les riches et les favorisés arrivent à tirer leur épingle du jeu. Au cœur de toutes les incertitudes se trouve le refus de la vraie réforme qui est la privatisation de l'éducation. Tout le monde se souvient des grandes manifestations pour la liberté de l'enseignement. Après avoir simulé un retrait, le pouvoir s'est attaché à l'époque à bétonner le service public et laïque de l'éducation. La liberté de l'enseignement avec son corollaire, le bon scolaire, n'aurait pourtant été qu'un début. La vraie formule est la privatisation de l'éducation, en commençant par la vente des universités à des capitaux privés ou à des associations, et ensuite par la même opération au niveau des grands lycées. Les enjeux sont non seulement culturels sous forme de la qualité de l'enseignement, mais également économiques. L'enseignement nationalisé en France est peut-être l'une des dernières armées soviétiques du monde, qui regroupe 1 260 000 membres du personnel et 14 millions de clients. Il est évident qu'un tel ensemble, avec inévitablement les syndicats embusqués partout et jouant les véritables maîtres du système, est parfaitement ingérable. Il ne peut se bouger que par des nuées de lois et de décrets absurdes et inopérants au niveau du terrain. À titre d'exemple, un proviseur de lycée ne choisit ni ses enseignements, ni ses élèves, ni ses professeurs, même si son autorité s'exerce au moins sur les horaires et les femmes de ménage. La privation de quelque système que ce soit conduit à un progrès de la qualité, avec dans le temps à la réduction de la moitié des coûts. La privatisation de l'enseignement en France conduirait à des dizaines de milliards d'euros d'économies, avec enfin, grâce aux bienfaits de la concurrence, le retour du pays dans le peloton de tête des nations civilisées. À quand la vraie rupture ?